carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Isabelle Schmitz.
Bonjour à tous, bienvenue sur Canal Académie pour ce carrefour des arts qui va nous transporter aujourd'hui dans un univers tout à la fois poétique et prosaïque, un univers révolu qui a marqué l'imaginaire de générations entières de Parisiens, mais aussi de peintres, de chanteurs, de poètes et de littérateurs. Cet univers, c'est sur les pentes de la butte Montmartre qu'il faut aller le chercher, entre la rue Le Pic, le Moulin de la Galette et la rue Saint-Vincent, à l'ombre de la basilique du Sacré-Cœur, alors fraîchement sortie de terre. C'est aujourd'hui dans la pénombre du cabaret Le Lapin Agile, rare survivant de cette époque, qu'on peut l'imaginer. Après Aristide Bruand et La Goulue, voici Toulouse-Lautrec, Van Dongen, Mac Orland, Francis Carco, Pablo Picasso. Et enfin parmi eux, Suzanne Valadon et Maurice Utrillo, la mère et le fils, tous deux peintres de Montmartre. Deux figures contradictoires dans la vie et dans l'art, mais deux figures que présente ensemble la Pinacothèque de Paris dans une vaste rétrospective qui est intitulée « Au tournant du siècle à Montmartre, Valadon-Utrillo, de l'impressionnisme à l'école de Paris ». J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean Fabrice, qui est à la fois le commissaire de cette exposition et le détenteur du droit moral de Suzanne Valadon et de Maurice Utrillo. Jean Fabrice, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur cette antenne pour nous présenter non seulement l'exposition, mais surtout la figure et les figures importantes de Maurice Utrillo et de Suzanne Valadon. Pourriez-vous nous dire brièvement quelle a été votre rencontre avec ces peintres ?
Il y a déjà longtemps, longtemps pour moi, puisque j'ai perdu mes 20 ans. J'avais 20 ans, justement, lorsque je me suis attaché à l'œuvre d'Utrillo. On en parlait souvent à la radio. Il se faisait remarquer aux ventes aux enchères. À différents moments, on citait Utrillo. Utrillo par-ci, Utrillo par-là. Il avait participé au palais de Versailles, à la reconstruction, à la restauration de la toiture qui, avec Sacha Guitry, il y a eu des émissions, il a fait le timbre, il a produit un timbre spécial pour Versailles, etc. Et j'étais très intéressé, comme passionné, comme un certain public de l'époque qui s'intéressait à Utrillo. Voilà, c'était, quand on parlait d'Utrillo, tout de suite, on était à Montmartre. Et comme tous les jeunes de l'époque, nous allions à Montmartre. Du fait d'être à Montmartre, systématiquement, on était déjà quelque part sensibilisé par Utrillo.
Vous ne l'avez pas personnellement connu ?
Je ne l'ai pas connu personnellement, mais comme à cette époque, je travaillais dans différents milieux artistiques radiophoniques. J'ai été assistant de production à l'ORTF et ensuite j'ai fait des émissions à Europe et je voulais sortir un peu de cadre restrictif du fonctionnaire pour avoir une émission et je travaillais un peu sur le côté artistique et j'avais été attiré par Montmartre et toujours Montmartre avec Utrillo. Et c'est donc à cette occasion que j'ai rencontré Madame Utrillo. J'avais été évidemment aux obsèques d'Utrillo qui avait réuni une foule considérable au petit cimetière Saint-Vincent. Nous étions en 1955, le 5 novembre. Oui. Et j'ai rencontré chez ma cousine, place du Tertre, un beau jour, Madame Utrillo, pour avoir des éléments pour faire une émission. C'est comme ça que j'ai eu mes premières approches avec Utrillo.
Très bien. Alors, vous évoquez les funérailles de Maurice Utrillo. C'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui à imaginer qu'il ait pu avoir des funérailles nationales, alors que malheureusement, il est assez méconnu.
Non, puis alors, il y a un problème, c'est que il est le seul. Bon, peu importe, pour moi, c'est pas un problème, mais il est le seul à avoir être passé par le Sacré-Cœur. Il a été exposé pendant 24 heures au Sacré-Cœur à Montmartre. Il n'y a jamais eu aucun cercueil, il n'y a pas eu d'obsèques, de cérémonie funéraire à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. c'est une adoration du cœur de Jésus. Le Sacré-Cœur est ouvert jour et nuit. Et alors Cutrilo, on avait demandé à l'archevêché qui avait donné son accord pour que Cutrilo soit exposé dans une crypte au Sacré-Cœur. La foule a défilé pendant 24 heures sans arrêt. Il y a eu un monde considérable. Oui. Voilà.
La reconnaissance de tout Paris pour l'enfant de Montmartre.
Oui, mais ça s'oublie vite, parce que c'était le grand Cutrilo de l'époque. Il s'était manifesté dans beaucoup de choses, avec Chevalier, dans des œuvres de bienfaisance, la kermesse aux étoiles, avec plusieurs manifestations comme ça, où on apparaissait toujours un Cutrilo. Il avait offert un Cutrilo qu'on mettait aux enchères à droite, à gauche. On parlait du Cutrilo. Or, le temps a passé, déjà son décès, et après son décès, dans le temps, les choses se sont... Il n'y a pas eu de manifestation importante. La famille n'était plus là. Madame Cutrilo était âgée. Elle est décédée 10 ans après, en 65, juste 10 ans après. Lui est décédé en 55. Madame Cutrilo est décédée en 65. Mais vous savez, la veuve d'un artiste, ils sont pénibles, les veuves. Hein. Elles sont critiquées, elles sont montrées du doigt. Hein. Elles portent une mauvaise réputation. Moi, ça me faisait beaucoup de peine. Mais quand l'artiste est mort, vraiment, il reste l'œuvre elle-même, un point, c'est tout. Alors donc, Cutrilo, il est parti commercialement aux États-Unis, à Londres, dans les grandes maisons de vente, où il tient toujours sa place, n'est-ce pas ? Mais Cutrilo de Montmartre, petit à petit, l'image s'est effacée à Paris. Et ça, je suis très content qu'il y ait cette exposition aujourd'hui pour retrouver le passé Cutrilo avec toutes ces rues qu'il a peintes. Car Paris, dès qu'on est très loin de Paris, si on parle du Cutrilo, systématiquement, j'ai fait l'expérience souvent au Japon, automatiquement on pense à Montmartre. Parce que tout de suite surgit tout le passé de Montmartre, le bateau Lavoir, le lapin agile, la place du Tertre, la maison de Mimi Pinson.
Oui, c'est un Montmartre qui est révolu. C'est voilà, ce que j'évoquais un petit peu en introduction. Vous expliquez, vous avez collaboré notamment à un numéro hors série du Figaro consacré à Cutrilo.
Voilà, absolument.
Dans lequel vous expliquez que Cutrilo se fait le témoin d'un temps qui est finalement passé très vite et qui est pourtant resté légendaire.
Absolument. Et les lieux ont disparu également, puisqu'ils sont passés sous la pioche des démolisseurs en 1925, où on a voulu faire un Montmartre moderne. Et tous les vestiges importants, on a détruit une grande partie du vieux Montmartre, du Montmartre historique de l'époque. Et ce qui faisait dire à Cutrilo, pourvu qu'on ne touche pas au Sacré-Cœur. Voilà.
Oui, Francis Carco, d'ailleurs, dans la biographie qu'il a consacrée à son ami Cutrilo, dit que l'évolution de la peinture du Cutrilo se fait en même temps que l'évolution de Paris et que la démolition des masures de Montmartre, de même qu'elle laisse la place à des avenues beaucoup plus géométriques, et la peinture du Cutrilo suit un peu cette évolution. Est-ce que vous pensez que c'est une appréciation juste ?
Je pense qu'elle est d'actualité. C'est une appréciation qui correspond à ce que nous vivons aujourd'hui, effectivement. Je ne sais pas si, par exemple, Cutrilo aurait imaginé, ça fait couler beaucoup d'encre, la pyramide du Louvre. Est-ce qu'il l'aurait peinte, cette pyramide ? Je ne sais pas. Comment il aurait planté la cour du Louvre ? Comment il l'aurait mis sur son décor avec cette pyramide ? Est-ce qu'il aurait sculptures de Buren au Palais Royal ? C'est pareil. Bon, Cutrilo, c'est un conservateur. Il vit déjà 7 siècles. C'est la fin du 19e siècle. C'est l'époque de Renoir, c'est le bal de Montmartre, c'est avec Renoir le Moulin de la Galette, c'est tout un monde qui a disparu dans les années 25-30. Le monde de Poulbeau, tout ce monde-là a disparu aujourd'hui.
C'est un monde finalement qui est très limité dans le temps.
Voilà.
Et qui c'est pourtant a survécu dans l'imaginaire.
A marqué une époque, voilà. Cutrilo a marqué une époque. Voilà, alors évidemment, Maintenant, on est passé à des choses beaucoup plus... avec les computers, avec l'ordinateur, avec toutes ces choses. Je ne sais pas si Utrillo aurait pu se faire à ce monde d'aujourd'hui. Pourquoi pas ? Mais enfin, tel que j'ai connu, découvert le personnage, sa mère venait du Limousin et c'était des gens qui avaient vécu plus à la campagne qu'à la ville. Et Utrillo, quand il a vécu à Montmartre, c'était encore la campagne. Voilà.
Vous en parlez de façon très vivante. On croirait que vous l'avez vu quasiment vivre.
Ben, c'est-à-dire, vous savez, oui, mais je vais vous dire, à la force de s'intéresser à un sujet comme celui d'Utrillo, et comme j'ai vécu avec Madame Utrillo un certain temps quand même, avec tous les tableaux, avec tous les objets, avec tous les souvenirs, je dois avouer que, sans le vouloir, mais tous les soirs, vous savez, les personnes âgées, on radote un petit peu les mêmes choses, bien souvent. Moi qui ai pris de l'âge, je me rends compte des fois, on me dit, oh, bah, tu l'as déjà dit, ça va, tu l'as déjà raconté. Et alors, c'était toujours avec la tasse de tilleul, l'histoire Utrillo qui m'était racontée, parce que comme les vieux, ça dort pas toujours très, ça a des heures irrégulières. Alors c'était Jean, alors il fallait y aller, je venais là, et je l'écoutais, et ça m'intéressait. Alors je prenais des notes, mais je retournais des fois sur les mêmes sujets, mais ça m'a quand même, et le reste, je l'ai découvert moi-même. Ce qu'elle ne me disait pas, évidemment, et qu'elle ne voulait pas reconnaître, parce qu'elle s'était mariée avec Utrillo, c'était de reconnaître qu'Utrillo aimait bien le vin rouge. Elle me disait que vous, les journalistes, vous aviez poussé, c'est vous qui aviez poussé sur le bouchon, et que Utrillo, il buvait bien un petit peu comme ci, comme ça, mais qu'il ne fallait pas en faire autant d'histoires. Et avec le temps, après, j'ai découvert, j'ai mis la main sur une documentation dont l'origine ne peut pas être contestée. C'est les archives de la police. Quand il est interné X fois, avec les rapports de médecins, etc., et ce que le rapport des médecins et l'analyse qu'il faisait, et pourquoi il était conduit d'office, et pourquoi il n'en sortait pas, et les interventions qu'a fait Suzanne pour tenter de le voir son fils sortir, de solliciter Carco pour qu'il intervienne en sa faveur, etc., etc. Tout ça, c'était rayé. Madame Utrillo ne peut pas aller chez Lanvin, ne voulait pas être la femme d'un ivrogne, c'était pas possible.
Bien sûr.
Voilà, alors, l'histoire d'Utrillo, je connais bien Utrillo parce que c'est un sujet qui m'a passionné, d'autant plus qu'on me cachait une partie de la vérité.
C'est peut-être ce qui constitue cette fameuse légende Utrillo qu'on
voilà,
va voir.
Absolument.
On va marquer une courte pause et on retrouve tout de suite Jean-Fabrice, Maurice Utrillo et Suzanne Valadon. Merci.
Alain Besançon, Renaud Denoy de Saint-Marc, Henri Amouroux, Pierre Mazot, Jean Tullard, Jean Béchler, Mireille Delmas-Marty, Jacques Delarosière, Jean-David Levitte, ces philosophes, économistes, historiens, diplomates et juristes partagent leur passion et leur vision du monde. Retrouvez les membres de l'Académie des sciences morales et politiques sur Canal Académie.
Nous nous retrouvons dans Carrefour des Arts. Je retrouve Jean-Fabrice, qui est le détenteur du droit moral de Maurice Utrillo et Suzanne Valadon, et le commissaire de l'exposition organisée à la Pinacothèque de Paris autour de ces deux figures de peintres. Jean-Fabrice, nous évoquions juste avant la pause la légende Utrillo, qui est connue par certains, qui était peut-être cachée par d'autres, qui n'avait pas forcément intérêt à la répandre. Quelle est cette légende ?
Je crois que c'est grâce à cette légende qu'il a une belle histoire, parce que on dit beaucoup de choses sur Utrillo. La vie d'Utrillo est beaucoup plus simple. En fait, Utrillo, c'est vrai, nous en parlions, nous en avons déjà parlé, et je dois dire que c'est vrai, Utrillo est un enfant qui n'a pas grandi. Utrillo est un enfant. Il est un enfant à 40 ans. Il est un enfant avec sa femme. Pourquoi il est un enfant avec sa femme ? Parce que je crois qu'il n'a pas épousé une femme, il est resté avec sa mère. C'est sa mère qu'il a épousé, mais pas sa femme. Et je me demande même, à ce niveau-là, il n'aurait jamais pu avoir d'enfant. Je crois que n'y a pas eu à avoir de grands rapports conjugaux ensemble. Je crois qu'il y en a même. Je me demande s'il y en a eu un jour.
Quel âge avait-il quand il s'est marié ?
Il s'est marié, il avait 52 ans. Suzanne Valadon avait prévenu Uther, il s'était séparé d'avec Uther. Et alors Suzanne Valadon avait dit à Uther, pour ma sécurité, la sécurité du trio, faut que qu'il se marie parce que sa santé vacillait à Suzanne. Elle avait des problèmes d'ordre cérébraux, tout ça, des hémorragies. Alors elle avait pris la décision avec cette femme qui était rentrée dans la maison depuis des décennies, qui était veuve d'un banquier belge, de marier son fils parce qu'il y avait de l'argent.
On vient d'évoquer la figure de Maurice Uther. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Parce que lui aussi, je pense qu'il fait partie de cette légende et de ce qu'on a appelé la trinité infernale.
Uther, lui, il a été généreux dans cette famille.
C'est un ami de Maurice Utrillo au départ.
Au départ, il a fait les Beaux-Arts. Il est d'une famille de plombiers qui est rue Clignancourt. Alors donc, cette famille de plombiers, mais le fils là-bas, ici, partait des études aux Beaux-Arts, et il en sort avec une grande connaissance, il est passionné par la peinture, et il va rencontrer Utrillo lorsque lui-même va dans les champs de Poirier, à Montmagny, où Utrillo vient sortir de sa première cure de désintoxication. On ne veut plus le mettre à Paris, et donc on l'a mis chez la grand-mère maternelle, la mère de Suzanne, qui réside dans une maison qui est louée par le mari de Suzanne, qui est le banquier. Et donc il est à Montmagny avec la grand-mère, et rencontre comme ça dans les champs de Poirier Uther, qui est en train de travailler la perspective, et Uther va donner des conseils à Utrillo. Ils vont se lier d'amitié.
Ils ont à peu près le même âge, je crois.
Ils ont 2 ans de différence. Un très joli garçon, très, très sportif, très dynamique. Et un beau jour, évidemment, avec les frasques d'Utrillo, il va se retrouver avec Utrillo sur les bras, qui a du mal à arriver chez lui. Et c'est donc Uther qui va conduire Utrillo jusqu'à chez sa mère, Suzanne Valadon, qui occupe une maison maintenant, une maison neuve à Montmagny. Et donc, c'est là qu'il va découvrir Suzanne Valadon et qu'il va tomber amoureux de Suzanne Valadon. Et 8 jours après, quand Utrillo arrivera à l'improviste, il trouvera son copain, le seul qu'il a, dans le lit de sa maman. Voilà, ça commence comme ça, voilà comment.
Et c'est le début de la longue histoire de cette
trinité. Et la longue histoire, et va devenir après son beau-père, Uther va devenir son beau-père. C'est lui qui le conduira bien souvent au cours de tous les internements qu'Utrillo va avoir. C'est lui qui ira le voir à l'hôpital psychiatrique, etc. Et Uther a fait une très jolie peinture, mais il n'a pas l'occasion de s'exprimer comme il le voudrait. Il est pris par Suzanne, qui l'accapare, qui ne le lâche plus. Elle a peint un tableau avec lui, ils descendent, ils se tiennent par la main. Elle descend du paradis avec lui, avec une couronne sur la tête. Elle est amoureuse, terriblement amoureuse. Elle va le peindre tout nu, avec simplement un filet qui va cacher le minimum. Il fait un effort considérable pour lancer un filet imaginaire vers la mer. Et alors comme ça, en se contractant, on voit les muscles. Et puis pour qu'on comprenne bien comment il est son homme, elle le met sur le côté droit, elle le met sur le côté gauche. C'est une toile qui fait à peu près 4 mètres de long, qui se trouve d'ailleurs à Beaubourg. Et donc, c'est le grand amour, mais elle est tellement prenante que le pauvre Uther, il joue le jeu. Il se laisse mener un peu par le bout du nez, il sait ce qu'il veut, il fait de la peinture, mais il va rester quand même tout le temps en retrait. Voilà ce qu'on peut dire d'Uther. Il a épousé aussi une mère, lui, parce que il a 20 ans de différence. Elle est belle quand il va épouser Suzanne Valadon. Elle est très, très jolie, elle est une très belle femme. Mais avec le temps, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que les choses s'en vont, la peau, etc. Et lui, quand il aura 40 ans, elle en aura 60. Et elle va, comme il est coureur, il a un métier qui l'oblige lui aussi à faire du nu, puisqu'il aime faire du nu, et il prend des jolies femmes pour faire des tableaux, pour faire des nus, avec des séances de pause qui durent 2 ou 3 heures, et Suzanne ne les supporte pas. Et ça va finir qu'ils vont se fâcher complètement. Ils vont se séparer. Et Suzanne en sera très malheureuse. Elle restera sur sa faim jusqu'à sa mort, seule, voilà, avec... Et Uther n'aura pas une vie extraordinaire non plus. Ces deux êtres qui auront passé leur temps à se déchirer, et ce que reproche Uther, ce n'est pas le comportement de Suzanne, mais celui du trilo qui a gâché celui de la famille.
Mmh. Utrillo qui, en fait, depuis tout petit, est jaloux et a besoin de sa mère.
Épouvantable, épouvantable. Alors, il écrit même une lettre à Suzanne. Quand est-ce que tu vas te séparer de cet être immonde qui est insupportable, en parlant de son beau-fils, en parlant du fils de Suzanne? Alors, entre le choix de Suzanne et d'Uther, malgré son amour, c'est celui de son fils qui prime. Et qui primera toujours.
Alors, vous évoquiez la peinture de Suzanne qui est très charnelle, très haute en couleurs, et celle de Maurice qui, à la différence, est plus,
poétique,
plus poétique, plus calme.
La poésie.
Quel lien artistique peut-on voir entre la mère et le fils, puisqu'ils sont réunis dans cette exposition de la Pinacothèque?
Aucun. Ce sont des peintures, ce sont des œuvres tout à fait différentes. On a vraiment beaucoup de difficultés à vouloir, à travers la palette, quelques tableaux du trilo s'approchent des tons, des couleurs de la palette de Suzanne, parce que peut-être qu'à ce moment-là, il n'avait pas de quoi acheter sa peinture, et il a fauché, il a pris la peinture de sa mère pour faire le tableau qu'il avait envie de faire sur le moment.
À l'exposition, par exemple, il y a des tableaux.
Oui, alors par exemple, si vous voulez, à l'exposition, très bonne remarque, je vous remercie, vous avez raison, vous avez le marchand de couleurs qui est de l'époque blanche et qui s'appelle le marché de couleurs à Saint-Ouen, et vous avez en parallèle, qu'on peut mettre en opposition, c'est le tableau qu'a fait Suzanne, qui est un magnifique tableau, le portrait de son fils.
Qui est d'ailleurs l'affiche de l'exposition.
C'est ça, qui est très cézannien. On voit, d'après les marrons, les rouges, les tons, les couleurs, ils sont très proches. Ils sont vraiment très proches par les pigments, par les couleurs. Ils employaient les mêmes pigments, ils faisaient leur petite salade ensemble. Mais enfin, Utrillo voulait mettre du bleu, où Suzanne n'en mettait pas du tout. Vous voyez, le travail de Suzanne est beaucoup plus un travail de fond, un travail de cerne, de mise en place du graphisme, tandis que Utrillo fait des choses qui se superposent les uns aux autres, avec des nuances, avec des ciels qui sont énormes. Énormément travaillé, ouais, poussé. Voilà. C'est Utrillo, c'est du fignolage. Ça ne l'empêchait pas de faire, comme disait Tabaran, qui était le biographe de l'époque, en 1925, qui a écrit un ouvrage sur Utrillo, et qui disait une cuite par jour, un chef-d'œuvre par jour. Alors, un chef-d'œuvre, mais c'était un chef-d'œuvre.
Alors, parmi les chefs-d'œuvre qu'on peut contempler à la Pinacothèque, vous avez choisi uniquement ceux de la période blanche.
Non. On a ouvert un petit peu. Pourquoi on a ouvert un petit peu? On a ouvert les grands tableaux qui s'approchent, qui préparent l'époque blanche. Parce que cette époque blanche, on veut toujours... D'abord, qu'est-ce que c'est que cette époque blanche? Tout le monde, l'époque blanche. C'est très simple. Ce sont vous, les médias qui ont donné à Utrillo l'œuvre l'époque blanche. Parce que l'époque blanche, c'est fait avec quoi? Ben, Utrillo, il a dû travailler, il était fauché. C'est un peu, vous savez, c'est l'histoire d'Émile Zola, Utrillo, avec Suzanne. Alors, il était fauché et il était en face d'une carrière à Montmagny. Carrière de plâtre. Et je crois qu'un certain temps, Utrillo, quand il était gamin, il a travaillé dans cette carrière de plâtre. Et puis, quand il est arrivé à travailler sur l'œuvre peinte, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu utiliser ce plâtre. Alors donc, il a mis du jaune d'œuf sur la toile pour servir de colle, pour tenir la matière. Et il a appliqué ensuite avec du blanc de zinc pour mélanger ce plâtre, pour pas qu'il soit tout seul, qu'il y ait une matière, qu'il y ait une certaine brillance. Et puis il a mis des couleurs, il a mis de l'ocre jaune, il a mis du lac de Garance, il a joué, il a fait des blancs sales, des blancs dorés, des blancs poussiéreux. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé Les critiques ont dit, quand on regardait ces tableaux, il y avait, suivant la lumière, un éclairage différent sur le tableau. Ça jouait avec les blancs qui étaient cachés sous cette matière, qui jouait avec les rayons, avec la lumière. Et donc, on a appelé cette matière-là, qui était surchargée, où mettait des fois du sable, il mettait aussi des fois de la mousse, il a mis même du ciment à mélanger avec le plâtre. Il n'avait pas peur, il appuyait avec la truelle. Il maçonnait ses tableaux. Donc, de tout ça, il en est résulté qu'une grande partie des critiques d'art de l'époque ont dit c'est du blanc, c'est la matière blanche. Donc, l'époque blanche. Cette matière blanche est devenue l'époque blanche. Voilà. Mais alors, on a trouvé comme Utrillo est rentré dans une séance. Pendant qu'il a été interné plus ou moins avec l'alcool, pendant au moins 4 ou 5 ans. 5 ans, il a fait 5 ans d'internement, à des époques différentes. Alors, pendant ces époques-là, il ne travaillait pas. Alors, il était difficile d'avoir des tableaux. Les experts, autant soient-ils, ne pouvaient pas dire « ça s'est peint vers 18, ça vers 19, ça 20 ». Alors, nous, ce que nous avons fait, quand les tableaux sont tous époque blanche, moi je dis tout simplement, il y a les tableaux qui amorcent le grand mouvement quand on est arrivé au sommet de l'époque blanche, et puis il y a tous les tableaux qui arrivent progressivement à cette époque blanche. Donc, si vous voulez l'époque blanche, le moment le plus fort, c'est entre 10 et 14, et puis il y a tous ces tableaux qui amènent l'époque blanche, ce qui veut dire dans l'exposition, vous aurez quelques tableaux vers les années 1908-1910, qui sont de très grands tableaux. Vous aurez l'époque blanche qui va jusqu'en 14, et puis quelques tableaux qui terminent l'époque blanche vers 15-16. Voilà. Voilà l'époque blanche. Et elle est plus logique comme ça que d'être comme le commerce, comme les marchands l'ont mis en place. C'est 14, après ça vaut plus rien. C'est faux. Il ne s'est pas arrêté pile en 14.
Bien sûr. Mais selon vous, c'est le moment où son art culmine.
Parce que voilà,
on avait
absolument
évoqué dans l'entretien que vous nous aviez accordé au Figaro hors série. Je citais une anecdote de Carco qui rapporte qu'Utrillo un jour s'énerve en disant « Du blanc, mais du blanc, ils veulent que du blanc, il y a autre chose. Ah, les idiots, j'en peux plus. » Et vous répondiez « Utrillo est peut-être fatigué qu'on lui parle de ce blanc, mais c'est là où sa personnalité se manifeste le plus en peinture. »
Absolument, absolument.
Parce que se passe-t-il après, finalement, après 1916 ?
Eh bien, je vais vous dire après. Après deux tentatives de suicide, après bien des problèmes psychiques qu'il a eus dus à l'alcool et tous les ingrédients, parce qu'il ne buvait pas que de l'alcool, il buvait de l'absinthe. C'était l'époque de l'absinthe, de l'alcool, du vin rouge, c'était les lampes à pétrole, c'était la bouteille d'eau de Cologne qui volait quand il n'avait rien à boire dans le cabinet de toilette de sa mère, c'était l'éther, et on apprend même qu'il a touché à la drogue dure, et puis quand il n'avait rien à boire, il buvait de l'ammoniaque. Alors vous voyez qu'il a vraiment, vraiment tout fait pour arriver au suicide de Utrillo. Hein. Mais Suzanne ne pigeait pas, elle ne comprenait pas. Elle était dans sa peinture. Voilà. Et alors c'est ça où Utrillo, ça a dû l'énerver de voir cette mère qui ne pigeait pas bien la situation toujours. Ces gens qui étaient autour d'elle, qui lui prenaient cette mère. Il n'avait que cette mère puisqu'il n'avait pas de père. Père inconnu, il est né sans père. Il était reconnu par un père qu'il n'a jamais vu, qu'il va donner son nom à l'âge de 7 ans. Alors, c'était tout. Sa mère était la mère et le père en même temps. Elle était tellement amoureuse qu'elle n'avait pas de temps à lui donner, à lui consacrer. Alors, ses tentatives de suicide, c'était pour attirer son attention. Et elle n'a toujours pas compris. Alors, ce qu'il a fait en dernier lieu, eh bien, il a dit, bon, puisqu'elle se croit une femme peintre, parce qu'elle a posé pour les uns, pour les autres, elle fait du dessin, tout ça. Et il s'est mis à faire de la peinture. Il ne voulait surtout pas faire de la peinture. Il voulait être littéraire. Et c'est pour ça que bien souvent dans des gouaches, des choses comme ça, il adjoint un poème qu'il a fait, et vous avez un poème où vous avez un quatrain dans le tableau, parce qu'il voulait écrire. Et finalement, pour faire un pied de nez à sa mère, il s'est mis à peindre. Et finalement, il a réussi. Parce que l'œuvre de Suzanne, elle est belle, mais elle est dure. Quand elle fait un portrait, quand elle réussit un portrait, comme elle le dit souvent, moi je ne fais pas un portrait pour qu'il soit beau, je fais un portrait tel que je le ressens, tel que je vois, tel que ça me touche. Et j'avoue que bien souvent, les tableaux, les dessins, ils sont les graphismes, ils sont durs, les chairs sont...
C'est peu flatteur,
sont,
en tout cas.
Généreuses, mais c'est pas toujours flatteur, n'est-ce pas? Alors, à Utrillo, c'est tellement facile, la petite rue, la petite église, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est pas une peinture de fou, Utrillo. C'est pas une peinture d'ivrogne, Utrillo. C'est une peinture où tout est calme, où on respire la tranquillité. Alors, il a réussi avec ça à vendre beaucoup mieux que Suzanne Baladon. Et finalement, c'était la peinture de son fils qui faisait marcher la famille, bouillir la marmite et qui couvrait tous les besoins de la famille. Et quand Utrillo était chez les fous, il n'y avait plus d'argent dans la maison. Et c'est pour ça qu'on avait fait appel à Carco pour qu'il intervienne auprès du préfet et qu'on puisse faire sortir Utrillo de ces époques d'internement où il était, bien souvent, il a été menacé d'être interné à vie.
Et après la période blanche, qu'est-ce qui se passe?
Alors, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui explique ce changement? C'est très simple. Ce glissement vers...
je l'explique peut-être mal, mais voilà, c'est très bien. C'est que, après les explications que je viens de vous donner, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est très simple. Quand il va ressortir de ces séances d'internement, plus ou moins longue. Il va être interné une époque pendant un an. Eh bien, quand il va en sortir, il n'a plus envie, madame, de mettre du plâtre. Il n'a plus envie de casser des œufs pour mettre sur la toile et tout ça. Ça lui casse les pieds, ça l'ennuie. Là. Il en a marre de tout ça. Il va aux choses les plus faciles. Il va à la facilité. Il va prendre tout simplement de la couleur. Il va faire des gammes chromatiques et il va vous mettre de la couleur partout, il n'y en avait pas. L'époque blanche, c'est une époque où le tableau d'Utrillo est triste. Eh bien, les rues sont vides. Et si elles sont avec un mouvement de foule, ce sont simplement des silhouettes faméliques qu'on voit au lointain dans la perspective, qui travaillent absolument, ils travaillent la perspective. Ils s'en fichent complètement de la populace qui traîne dans la rue. Il n'en veut pas. Alors, ils sont vides, les tableaux sont généreux, mais les façades sont puissantes, c'est tout ce que vous voulez. Les monuments, les cathédrales, c'est un maçon, et c'est un charpentier, c'est tout ce que vous voulez. Mais là, on ne peut pas trouver le... Il y a beaucoup de gens qui... Il faut aimer la peinture pour aimer cette époque blanche. Tandis qu'arrivé à l'autre époque, quand il sort de ses internements, eh bien, il va avec la facilité. Et puis alors, évidemment... C'est agréable à l'œil, c'est une peinture Utrillo qui est complètement inattendue, qui surprend tout le monde. C'est l'époque colorée qui vient. Alors là, on commence. Mais alors, ceux qui aimaient bien Utrillo de la grande époque, et puis cette époque blanche qui est perdue, alors on lui demande toujours, alors il refait les mêmes tableaux qu'il a fait à l'époque blanche. Mais vous savez qu'il l'a perdu complètement. Il est incapable de la refaire. Et les tableaux qu'il va refaire, les mêmes sujets qu'il va traiter, il va traiter 3-4 fois le même sujet, hélas. Parce que si j'avais été le marchand d'époque, je n'aurais pas incité Utrillo de le faire. Ce qui fait que ça a enlevé, ça a sucé un peu la qualité de l'œuvre, voyez-vous.
Il a une productivité très, très, très importante, non? Parce que vous parlez de 6 000 tableaux.
Il a peint plus de 6 000 tableaux. Moi, j'ai enregistré à peu près 5 000 tableaux, mais il a fait plus de 5 000 tableaux. Il a fait 6 000 tableaux. Mais il en sort tous les jours encore. Parce que les gens les cachent jalousement. Et puis, il y a tous ceux qui sont encore dans des successions, qui ne sont pas sortis, qui sortiront un jour. Mais on en a toujours une centaine, une cinquantaine qui sortent par an, comme ça, qu'on ne connaît pas, qui sont des nouveaux, qui sont nouveaux pour nous.
Alors, il y a un élément de la légende du Utrillo qui doit être assez désagréable pour le spécialiste que vous êtes, mais c'est l'histoire des faux. Il y a eu certaines copies qui ont circulé ou certains faux. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu et...
Oui, je vais vous dire pourquoi. Vous savez, pour faire ce que je fais, moi, on ne gagne pas beaucoup d'argent. On en perd beaucoup. parce qu'on achète de la documentation. J'ai hérité beaucoup chez Madame Utrillo, mais par rapport à ce que j'ai acheté depuis, c'est une goutte d'eau dans la mare. Hein. J'ai acheté quelques valises et documents et j'ai acheté maintenant de quoi en mettre pour il m'en faut 100 mètres carrés pour mettre le tout et encore. J'ai fait toutes les bibliothèques de France et de Navarre. J'ai fait un travail énorme. Alors, madame, je vais vous dire que vous avez beaucoup de personnes qui se disent, je me dis pas expert, connaisseur, ça me va. Je veux bien, je l'accepte. Expert, on est expert de... Je ne suis pas expert, parce que les experts sont experts en tout. Alors, ils sont experts d'abord en Utrillo, puis ils sont experts en Vlaminck, ils sont experts en une dizaine, en une quinzaine de tableaux, ou alors plus, et vous avez des experts qui sont experts pour... qui représentent la peinture moderne, ça veut dire plus de 50 000 peintres. Comment vous voulez dire que ça c'est ceci, c'est de l'aberration. C'est obligé d'arriver à des erreurs monumentales. Donc, dans l'œuvre du Trillo, beaucoup de gens, surtout à l'époque, puisque vous me parlez du faux, il y a eu une époque où le tableau n'avait pas la valeur qu'il a aujourd'hui. On ne spéculait pas sur l'œuvre d'un peintre comme aujourd'hui. Maintenant, comme on spécule sur un peintre, sur un artiste, on a besoin d'avoir une carte grise. La carte grise, c'est le certificat d'authentification qui dit que c'est une œuvre authentique. Mais vous avez, si vous faites un recul en arrière dans les années 1950 même avant 40, 50, dans ces années-là, 1930, on vendait des Vitrello, ils se vendaient. Et ce qui servait de certificat d'authentification, c'était la facture qui disait « vendu un Utrillo hein, », etc. Alors, fort de tout ça, quand on s'est occupé du Utrillo, surtout dans les années 89, où il se vendait, vous commenciez par acheter un Utrillo dans une petite vente, mettons à Argenteuil, vous mettiez le prix, d'avoir un petit Utrillo, vous le mettiez à Drouot, hop, il faisait trois marges de plus. Du coup, après, un autre, à Drouot, le prenait, l'amenait à Londres. De Londres, et l'Utrillo, moi j'ai des ventes avec Utrillo, qui ont fait en 5 ou 6 mois, 7 ou 8 ventes différentes. Ils ont monté à chaque fois. Ils sont partis, si vous voulez, à 20 000 francs, 25 000 francs pour une gouache, pour arriver à 60 000 aux États-Unis. Alors, un jour... Je faisais des recherches, et après j'arrive au fond, je ne m'en éloigne pas. Mais je vais vous dire comment on peut tomber. Je suis tombé chez une personne dans le 8e arrondissement, boulevard à côté des Champs-Élysées, et la concierge avait un Utrillo à vendre. Et la concierge était une brave femme qui était... Il y avait des gens qui passaient en voiture tout le temps, elle ouvrait la porte, elle fermait la porte. Et donc, elle était portugaise et elle m'a expliqué ce que c'était qu'Utrillo. Alors, vous comprenez, quand on voit des gens comme ça qui vendent des tableaux, et à l'époque, c'est ce qui se passait. Donc, le faux, il y avait la facilité pour ouvrir le faux. Donc, j'ai combattu pendant des années. J'ai fait des scandales, j'étais à Drouot, j'ai fait des scandales, j'étais à Londres, j'ai fait des scandales, j'ai fait la guerre, j'ai demandé des saisies. Le juge d'instruction a nommé des experts. Les experts m'ont donné raison. Bon, voilà. Et puis, grâce à ça, on a limité les faux qui se baladaient sur le marché. Mais il y a autant de faux avec Utrillo qu'il y a avec Courbet. On disait qu'avec Courbet, il y avait une somme considérable de faux. Je crois que chez Utrillo, il y en a eu autant. Mais enfin, maintenant, on a mis un coup de vis. Et puis, bon, on est très attentif. Et on tient le marché, quoi. Maintenant, je pense que les choses sont rentrées dans l'ordre.
En voilà. Tout cas, si certains de nos auditeurs veulent faire authentifier un tableau, ils savent qu'ils peuvent contacter l'association Utrillo.
Ouais, je vous remercie, mais je ne fais pas cette démarche dans ce sens-là.
Non, bien
je
sûr.
Vous le dis tout de suite.
Mais le fait de l'évoquer...
C'est vous qui me parlez de ce problème-là.
Bien sûr. Bien sûr. Bah écoutez, cher monsieur, je vous remercie infiniment de nous avoir fait revivre Maurice Utrillo, Suzanne Valadon et tout ce monde. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent aller, qu'on les encourage vivement à aller voir les tableaux d'Utrillo et de Suzanne Valadon à la Pinacothèque. L'exposition se tient du 6 mars au 15 septembre 2009. Ils peuvent retrouver également Jean Fabrice dans le catalogue de l'exposition qu'il a en partie rédigé et dans le numéro hors-série du Figaro qui s'intitule « Utrillo Valadon, Montmartre au tournant du siècle » qui est en vente en kiosque jusqu'à fin avril ou sur le site du Figaro. Merci de votre attention, à très bientôt sur Canal Académie.